vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Nous retournons au jardin de compagnie d'Yves, il y aura Joël et Aziz. Yves, bonjour, vous nous appelez de Bréal-sous-Montfort, votre question.
Oui, bonjour à vous deux. Oui, j'ai un petit souci, j'ai des haricots qui sont en train de lever. Donc il y a certains qui ont bien des feuilles et certains ils ont que la tige, ils sont mangés dans le bout, c'est tout marron dans le bout.
Ah, Philippe.
Alors, je pense que c'est dû à une attaque de limaces, hein, et effectivement, la bave de limaces, la salive de limaces, comment dirais-je, a tendance à faire pourrir les tissus qu'elle a contaminés, et ce qui explique ce côté marron sur le bout. Donc, vous faites la chasse aux limaces, il n'y aura plus de problème. Une limace ou escargot, hein, là, après, c'est l'un ou l'autre.
Voilà Yves, il va falloir faire la chasse, eh bien, hein, sans fusil, hein, bien sûr, qu'on soit bien d'accord, hein, aux limaces. Voilà, merci beaucoup Yves. Joël nous appelle, elle, de Loudéac. Bonjour Joël.
Oui, bonjour messieurs. Ben voilà, nous avons un prunier dans le jardin qui a quelques années, il a bien au moins 20 ans, il est superbe, et il y a pas mal de prunes cette année. Et là, il y a une branche, c'est-à-dire qu'il y a du tronc par trois branches, et il y a la branche la plus basse qui s'est écroulée par le poids, sans doute, des fruits. Et elle n'est pas complètement arrachée du tronc, mais elle a quand même ouvert le tronc, en fait. Et bah, du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut la couper? Est-ce qu'on peut la... De toute façon, il faudra cicatriser l'arbre. Je ne sais pas. On a besoin de vos conseils.
Aïe, 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 Philippe.
Alors c'est pas très facile pour moi de vous donner un seul conseil, hein. Je vais vous donner plusieurs conseils parce que ça dépend complètement du poids, effectivement. A priori vous dites que c'est la branche la plus grosse, la plus lourde, qui est
basse,
par terre,
ouais, celle qui parle le plus bas du tronc.
Et du coup, essayer de la redresser pour cicatriser, j'ai grand peur que ça soit mission impossible. Dans ce cas-là, c'est dommage pour la production de prunes, mais je crois que la solution la plus sage serait quand même de couper cette branche vraiment délicatement et de parer, hein, ce qu'on appelle parer la plaie après avec un couteau parfaitement tranchant et bien désinfecté, de manière à ce que la plaie soit propre, et dessus de mettre un gros emplâtre d'argile, hein, pour aider à la cicatrisation, pour empêcher des insectes ou des champignons de s'installer à l'intérieur et de risquer de faire pourrir l'intérieur de votre prunier. Et dans ces conditions-là, il faut les deux autres branches vont pouvoir se développer et reprendre le volume laissé libre par la troisième branche. Donc en général, ça se rééquilibre plutôt bien. Par contre, ce qu'il faut faire attention, et les pruniers sont effectivement assez coutumiers du fait, c'est à ce problème de surpoids, surproduction. Hein, lorsque sur des belles années comme ça, vous voyez beaucoup de prunes, il ne faut pas avoir peur d'en enlever une sur deux, voire deux sur trois s'il le faut, pour empêcher justement cette surproduction. Alors déjà, parce que vous allez en perdre. Quand il y en a trop, on a du mal à tout manger, à tout transformer en confiture, en je sais pas quoi, bon, bref, ou en donner aux voisins et compagnie. Alors que si, et l'année suivante, il n'y a rien en général, ou très très peu, alors que si on en enlève tous les ans, enfin chaque année où il y en a trop, où on n'a pas peur d'en enlever, d'une part, la plante elle est capable de grossir et de maturer tous ses fruits, parce qu'on n'en lui en laisse pas trop, et surtout, elle ne se fatigue pas trop, et l'année suivante, elle est capable de faire une production de qualité aussi. Donc ça vous permet cette action-là d'enlever les fruits précocement, ça vous permet d'éviter cette alternance et d'avoir une production correcte tous les ans. Et ça évite aussi de casser les branches.
Voilà Joël, j'espère que on va pouvoir résoudre ces problèmes, hein, vous l'avez dit, qu'ils sont pas faciles à résoudre, mais on va suivre les conseils de Philippe. Nous accueillons Aziz qui nous appelle de Saint-Jacques-de-la-Lande. Bonjour Aziz.
Bonjour à tous les deux. Voilà, je vais vous demander à Philippe, que j'ai des feuilles de rosier qui commencent à jaunir et avec des taches dessus noires. Et autre chose aussi, est-ce qu'il faut arroser ou pas, s'il vous plaît?
Alors, Pour le rosier, ça s'appelle la maladie de la tache noire, hein, vous l'avez bien décrite, effectivement, très souvent, c'est les feuilles jaunissent avec des petits points noirs, et puis le problème, c'est qu'après, la feuille, elle tombe, et du coup, le rosier est tout nu, et que c'est pas joli, un rosier tout nu, avec que des fleurs et plus de feuilles, c'est moche. Donc, c'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie qui n'est pas esthétique, et on peut, sans problème, avec tout simplement de l'eau et du bicarbonate de soude, hein, de sodium, on dit d'ailleurs, donc, 1 litre d'eau, 1 cuillère à café rase de bicarbonate. On mélange bien les deux. On pulvérise régulièrement. Alors régulièrement, ça peut être tous les 15 jours, 3 semaines. Ça dépend aussi de la météo. Hein, s'il pleut beaucoup, ben, faut refaire après chaque pluie. S'il pleut pas, ben, tant qu'il pleut pas, ben, c'est bon. Ça, le produit est efficace. Et ça permet vraiment bien de bloquer cette maladie. Et donc, ça permet d'avoir des rosiers qui soient jolis et qui aient en même temps des feuilles et des fleurs, ce qui est quand même un petit peu plus sympa. Ça, c'est donc première question. Deuxième question, l'arrosage, c'est... Bon, à mon avis, au mois de juin, tout début juin, c'est trop tôt. Normalement, si on a suffisamment paillé son jardin, et quand je parle de paillage, c'est pas 1 centimètre, hein, c'est 4, 5, 6, éventuellement 10 centimètres de paillage, normalement, à cette saison-ci, on n'a pas besoin d'arroser. Maintenant, après, ça dépend aussi de quel type de légumes il s'agit ou de quel type de plantes il s'agit. Hein, si vous êtes avec des plantes très gourmandes en eau, je pense aux oreilles d'éléphant, hein, aux colocasia. C'est une plante qui est très avide d'eau, tout ce qui est arôme, l'arôme d'Éthiopie, c'est très avide d'eau, donc ces plantes-là, on a besoin de les arroser un petit peu, mais si c'est du légume classique, ou si c'est des plantes bien installées dans votre jardin depuis plusieurs années, normalement, on n'a pas besoin d'arroser.
Merci Aziz d'avoir posé cette question donc sur les rosiers. Vous nous appelez au 02 99 67 35 35 et Philippe répondra à toutes vos questions jusqu'à 10h sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, et le précieux, toute la beauté du monde, à portée de tes yeux, les poings chauffés à blanc, je forge pour demain, tes bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.
Yeah.
Bienvenue à bord, le magazine qui vous fait prendre le large. Avec un invité...
Dans ses archives, on apprend que lorsqu'il était lieutenant de vaisseau, Louis XIV lui a fait don du château de Moulinsart.
Des chroniqueurs...
C'est bien les bateaux naviguent, mais c'est bien aussi de connaître leur histoire quand on les voit seulement dans le port.
Et des reportages...
Ça fait rêver quand c'est comme ça, là. Mais s'il fallait manœuvrer peut-être des cordages, ça ferait peut-être pas rêver.
Embarquez pour une virée salée avec Bienvenue à bord, le magazine de la mer, le dimanche de 12h10 à 12h30 sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et nous accueillons Jeannot qui nous appelle de Rennes. Bonjour Jeannot, votre question.
Oui, bonjour, je vous téléphone, c'est au sujet d'un frisier qui a 40 ans passé et qui est très gros et dont il y a une grosse branche qui est morte et d'autres que dont la vie elle est là, mais c'est les petites branches qui donnent des cerises ne sont pas vraiment idéales. Alors la question, est-ce que je peux le rabattre pour vous permettre d'avoir de nouvelles pousses pour les années suivantes?
Philippe.
Alors je dirais bien que ça vaut le coup d'essayer, parce que si vous ne faites rien, de toute façon, il risque de mourir. Hein. Je pense que c'est un cerisier qui est en fin de vie. Alors la durée de vie des cerisiers, elle est souvent, fonction du porte-greffe. Alors tout dépend du porte-greffe, mais a priori, s'il y a une grosse branche de mortes et d'autres qui sont pas en forme, c'est que globalement, votre arbre n'est pas en forme. Et d'essayer de le rabattre, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est un coup de poker. Hein. Y a une chance sur deux que ça marche. Donc, tentez le coup. Alors après, ne le faites pas ça maintenant, évidemment. Hein. C'est le gros problème, c'est que ce genre d'opération, ça se fait plutôt en hiver, sachant quand même que le cerisier, c'est une essence qui cicatrise très mal. Donc, si vous faites ça en hiver, elle aura du mal à cicatriser, donc du mal à redémarrer au printemps. C'est un petit peu une opération périlleuse, mais ça vaut le coup de tenter. Et surtout, cicatrisez bien les coupes avec un gros emplâtre d'argile, hein, de façon à ce que protéger les coupes et empêcher les insectes et les champignons de s'installer. Et puis quand l'arbre redémarrera, en espérant qu'il redémarre, eh bien, dès qu'il aura pris suffisamment de croissance, il éjectera lui-même l'argile. Et donc, à ce moment-là, ça prouvera que c'est bien cicatrisé et que l'arbre est bien reparti.
On vous souhaite, Jeannot, que ce cerisier reparte pour 40 ans. Nous accueillons Christine, qui nous appelle, elle, de Saint-Malo. Bonjour, Christine.
Oui, bonjour.
Votre question, Christine.
Oui, voilà, j'ai un phytolac dans mon jardin et j'ai entendu l'autre jour Philippe à une émission qui disait que c'était quand même un arbuste dangereux.
Oui, tout à fait.
Alors, en quoi c'est dangereux? Parce que je ne sais pas du tout.
Alors, en quoi c'est dangereux? D'une part, les graines, donc on appelle aussi le raisin d'Amérique, parce qu'il fait des grappes de gros fruits noirs avec des pétioles roses. C'est assez joli. Hein, c'est une très jolie plante. Hein, mais bon, toutes les jolies plantes ne sont malheureusement pas sympathiques en même temps. Donc, ces graines sont très toxiques pour nous. Alors, par contre, les oiseaux, eux, les adorent. Et le gros problème, c'est qu'ils vont aller disséminer les graines un peu partout, donc ça va pousser un peu partout, et donc on va propager cette plante, alors qui fait déjà pas mal de dégâts dans le sud-ouest de la France, hein, toute la région des Landes, quasiment toute la région Nouvelle-Aquitaine, hein. Ça devient une plante invasive dans certains coins. C'est une plante possiblement invasive et donc toxique quand elle est âgée. Par contre, c'est vrai qu'on l'appelle l'épinard des Indiens, parce que les jeunes feuilles sont comestibles, mais bon, je ne vous conseille pas trop d'essayer, parce qu'a priori, il ne faut pas en prendre trop, parce que voilà, y a des composés pas terribles. Donc oui, c'est une plante dangereuse. Si vous en avez dans le jardin, que vous maîtrisez à peu près la chose, mais et ça voudrait dire qu'il faut enlever les fruits, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment le côté sympathique. Sinon, je pense que ça fait partie des plantes qu'il faudrait avoir le courage d'arracher et de supprimer de son jardin.
Voilà Christine, donc là aussi un choix pas facile, doit-on le supprimer ou pas? C'est la question. Liliane, elle nous appelle de Rennes. Bonjour Liliane.
Oui, bonjour Monsieur Meunier. J'ai un petit souci avec mon polygala myrtiflora. Il a été très beau, beaucoup de fleurs, et là depuis quelques temps, ben, toutes les feuilles tombent et il est jaune. Que dois-je faire?
Monsieur Meunier, que faut-il faire?
Alors, est-ce qu'il est, il est en pot ou il est en pleine terre?
Non, il est en pot sur le balcon.
D'accord. Alors, je pense que soit il a été trop arrosé, soit il n'était pas assez arrosé.
Hein, de, je le... pense que première version, trop arrosé.
Voilà. Alors, trop arrosé, bah, souvent, c'est pire que pas assez. Parce que pas assez, l'arbre ou l'arbuste peut redémarrer. Trop arrosé, souvent, les racines sont pourries. Donc, il ne peut plus redémarrer. Donc, j'espère pour vous que c'est pas encore trop avancé. Dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Moi, ce que je fais, parce que je me dis, c'est un petit peu comme pour le cerisier tout à l'heure, c'est la solution de la dernière chance. Je sors la plante de son pot, je regarde dans quel état elle est. Si il y a des racines pourries, on les voit bien, elles sont molles, elles sont marrons, etc. On coupe tout avec un sécateur bien affûté, bien désinfecté, je le dirai jamais assez. Et puis, on tente le coup de le replanter dans un support qui soit pas trop mouillé. Hein. On l'arrose un petit peu quand même, mais pas trop. Et puis, on croise les doigts pour en espérant qui va redémarrer, mais c'est vrai que quand les racines sont très atteintes, c'est un petit peu mission impossible.
Voilà, on croise les doigts donc pour ce polygala. D'où vient ce nom polygala, vous qui savez tout, Philippe?
Alors là, vous posez une colle, Félix.
Ah bah, de temps en temps, il faut bien vous en poser une. Là,
ah, oui, tout à fait. Alors, poly, c'est plusieurs. Gala, je ne sais pas trop. Faudrait que je retrouve la racine. Mais voilà.
Polygame, on connaît. Polygala, on connaît moins.
Voilà, c'est plusieurs quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que c'est que quelque chose.
Voilà, c'est plusieurs quelque chose. Merci, Philippe. À tout de suite. On vous retrouve au 02 99 67 35 35. N'hésitez pas à nous appeler. C'est Anne-Marie qui vous accueille au Standard de France Bar Mauric et toute l'équipe vous souhaite un excellent dimanche.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Allez, une petite douceur là pour démarrer cette journée de dimanche avec quelques nuages, mais quelques éclaircies. Les nuages qui reviennent, il va encore faire très très chaud. Tanika Tikaram, Twist in My Sobriety. Excellent réveil pour ceux et celles qui viennent d'ouvrir les yeux sur France Bleu Armorique.
All good to me, travel. Choose, drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so. And never do what you say. I'll never hear you. And never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Twist in my sobriety. We just booked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Tanita Tekaram à 10h20 sur France Bleu Armorique.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Nous allons pas très loin de Vannes, Saint-Malo de Baignan, c'est dans le Morbihan, et nous accueillons Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Quel temps avez-vous ce matin dans le...
Ah, il fait super chaud, super beau.
Ah, oui, pas de, vous n'avez pas de nuages, vous?
Non.
Bande de vénards. Votre question, Marie.
Alors, j'ai un daphné qui a quoi, 7 ans de près, qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Il n'a pas fleuri, il n'a pas fait de feuilles cette année. Et là, il a fait des branches rouges, mais bordeaux. Et là, il devient tout marron. Alors, il y a des branches qui cassent et puis des branches souples. Alors, est-ce qu'il est mort? Est-ce que je dois l'enlever? Et si je dois l'enlever, est-ce que je peux replanter derrière?
Philippe.
Alors, je crains fort qu'il ne soit victime du dépérissement soudain du daphné. Hein, c'est une maladie, quand on appelle ça comme ça, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est voilà, dépérissement soudain, boum. On n'arrive pas à piger exactement, on trouve souvent et des bactéries et des champignons, mais on ne sait pas qui premier a commencé à tuer la plante. Toujours est-il qu'il faut l'enlever, effectivement. Vous pouvez replanter tout sauf des daphnés et des plantes de la même famille que le daphné, mais on peut replanter d'autres plantes, hein, parce que ça, voilà, c'est faut carrément changer de famille de plantes, et il n'y a pas de souci. Mais après, vous pouvez replanter un daphné ailleurs dans le jardin, normalement, il n'y a pas d'incidence forte, voilà, on ne sait pas à quoi c'est dû, malheureusement.
Voilà, donc on reste dans l'interrogation. Du Morbihan, on part du côté de Dol de Bretagne, à Bègue-et-Picquant, chez Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour, je vous appelle moi parce que j'ai une vigne du chasselas doré qui n'est pas repartie cette année. J'ai pas de feuilles, j'ai rien du tout. Alors je me demandais si c'était pas à cause du gel.
Alors non, parce que la vigne ça résiste à moins 25, moins 30, hein, donc c'est pas le gel. Je craindrais plutôt une attaque de champignons au niveau des racines. Alors elle était appuyée sur quelque chose, contre un mur, contre la maison. Non, votre vigne elle était.
Est-ce qu'elle était contre quelque chose? Ouest.
Ouest, mais ouais, contre ouais. Elle était en support, elle était contre un mur, elle était au pied de...
Non, elle était sur des fils, j'avais mis des fils et j'avais fait aller sur un fil, quoi.
Ok, et elle avait quel âge?
Oh, elle a bien 20 ans. Hein.
Ah oui,
donc
quand même.
C'est peut-être normal.
Non, c'est pas normal, parce qu'on retrouve encore des vignes qui ont...
Oui, même... surtout que l'an dernier, j'ai eu plein de raisins, quoi.
Mm-hmm. Alors, c'est malheureusement du fait du réchauffement climatique d'une manière générale, hein, et surtout de la température, de la météo en yo-yo, comme on disait avec Félix en tout début d'émission, c'est vrai que les plantes, elles souffrent énormément parce qu'il n'y a plus le climat qui leur correspond bien. Et souvent, ça les rend, du coup, comme elles souffrent, elles sont plus sensibles aux attaques de champignons et de bactéries. En l'occurrence, là, je crains que ça soit un champignon au niveau des racines et qui a tué la plante par la racine. Alors, il faut faire attention si vous avez donc ce type de champignon dans le sol, il peut aussi tuer d'autres plantes, des rosiers, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention. Suivez bien la santé de vos arbustes. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça qui est très, très embêtant.
Voilà, Evelyne, bon courage pour cette vigne. On va accueillir Denise qui nous appelle, elle, de Plognoc. On est en Ille-et-Vilaine, sur l'axe Rennes-Saint-Malo. Bonjour, Denise.
Bonjour, je vous appelle. Moi, c'est pour un érable du Japon. Ma fille vous avait envoyé un message et je ne sais pas où le planter. Soit en plein soleil ou mi-ombre. Et quel terreau faut mettre ?
Alors, l'érable du Japon, de toute façon, c'est pas plein soleil. Hein. C'est une plante typiquement de mi-ombre, ça c'est sûr. Maintenant, si vous le plantez dans un pot, il faut mettre un support de culture qui soit acide, parce que les érables aiment bien un peu d'acidité. Donc, le pH est marqué sur tous les sacs. Donc, vous regardez derrière, c'est pas devant, hein, c'est là où il y a la jolie photo. C'est pas là que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est derrière, ce qui est écrit en petit en général, où ça vous donne donc entre autres le pH, donc l'acidité du terreau, et il faut avoir un pH aux alentours de 5 ou 5,5. À partir de 6, c'est presque trop. Et puis donc en général, on fait un tiers d'un bon terreau, un tiers d'une bonne terre de jardin, et un tiers de sable grossier, hein, parce que les érables ont besoin d'avoir un sol bien drainé. Et dans ces conditions-là, s'il n'y a pas trop de courant d'air, parce qu'ils n'aiment pas les courants d'air non plus, votre érable va bien développer et vous régaler pendant beaucoup d'années, parce que certains arbres, ce sont des arbres qui peuvent durer très très longtemps.
Voilà, Denise, nous continuons notre balade dans le Jardin Bleu jusqu'à 10h sur France Bleu Armorique en compagnie de Philippe Munier, et vous nous appelez au 02 99 67 35 35.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Départemental 106, c'est comme si c'était hier. Un mardi soir de février, sur un deux-roues en solitaire. Il roulait tranquille, heureux sur sa planète, quand soudain au loin réverbère. Dans les phares du break, filant sous les étoiles, jaillit un éclair. Ses mobilettes en vol plané, en mille morceaux de lui cassés, avec la malle foutue en l'air et les projets dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde dans nos nuits vagabondes. Départemental 106, c'était comme si à cet endroit précis, les terres sous les lumières jaunies retombaient là sur le sol. Quand la vie ne tient plus qu'à un fil, pas besoin d'être un messie, et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour perdre aussi la parole. Dans le désordre et l'odeur d'essence, il prit l'homme sans bras dans ses bras, le déposa dans le fossé sans défense. et comme un animal se fait la malle. Le chauffard s'est barré, c'était fatal, en portant avec lui les rêves et les envies d'un innocent dont il venait de voler la vie. On n'est pas seul sur la terre, me dit un jour l'homme de fer.
Pascal Obispo, on n'est pas seul sur la Terre. Non, non, on est nombreux. Hein.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Jean-Michel nous appelle de Saint-Malo. Bonjour Jean-Michel. Jeanne-Michel, pardon.
Oui, Jeanne-Michel,
veuillez m'excuser, Jeanne-Michel. Quel temps avez-vous à Saint-Malo?
Un temps magnifique. Il fait chaud, déjà.
Bon, c'est formidable.
Voilà, c'est génial. Là, voilà. Et on a transpiré hier, vous ne pouvez pas savoir.
Il a fait chaud, chaud. On peut on peut aller se baigner, oui.
Oui.
Bon, c'est formidable. Votre question, Jeanne-Michel.
Alors, mais, moi, je suis catastrophée parce que mes pêchers se déshabillent.
Oh là là.
Ils perdent leurs feuilles.
Ah oui. Que faut-il faire, Philippe?
Alors, je pense qu'ils ont, eu la cloque avant.
La cloque maintenant, oui.
Ouais. Donc, quand on fait rien avant, malheureusement, la cloque, c'est une maladie pour laquelle il faut agir en préventif. Il n'y a rien en curatif. Donc, d'où votre désespoir, que je peux comprendre. Donc, à partir du moment où la cloque est passée, toutes les feuilles qui ont été attaquées, si vous ne les avez pas ramassées au fur et à mesure, et ben elles tombent, effectivement. Alors, après, il y a deux solutions. Soit la plante a suffisamment d'énergie et dans ce cas-là, elle redémarre, elle fait une deuxième feuillaison. Malheureusement, souvent, les fruits sont déjà tombé, donc il n'y a pas de production de fruits pour l'année. Si la cloque attaque plusieurs années de suite, à un moment donné, l'arbre devient trop fatigué et souvent il peut dépérir, voire carrément périr tout court. Et puis il n'y a plus qu'à remplacer. C'est ce qui fait qu'effectivement, la durée de vie des pêchers est relativement courte. Hein. Un pêcher, naturellement, ça vit une quinzaine, vingtaine d'années. Mais quand il a la cloque 3-4 ans de suite, eh ben, au bout de 4-5 ans, il peut être fichu. Donc, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Et surtout, c'est relativement facile à contrer avec le traitement dont j'ai déjà parlé à base d'huile essentielle. Et ça se fait effectivement avant la floraison, juste avant la floraison, et dans ces conditions-là, on arrive à empêcher la cloque et donc à avoir des belles productions de pêche et surtout avoir des pêchers en bonne santé.
Voilà, Jeanne-Michel, pour redonner vie donc à ce beau pêcher. Maurice nous appelle, lui, de Lanvalais. Nous sommes en Côte d'Armor. Bonjour, Maurice.
Bonjour, messieurs, les hommes, je vais dire.
Oh là là.
Voilà, ma question. J'ai un curcuma qui est en pot, et j'ai l'impression qu'il prend de l'ampleur. Donc, est-ce que je peux le mettre en pleine terre?
Un homme vous répond, un vrai de vrai, c'est Philippe.
C'est mon reconnu.
Les curcumas, c'est quand même des plantes tropicales. Hein, donc, si on les met en terre, il faut quand même se rappeler que ça gèle de peur. Les plantes tropicales, à moins 2 très souvent, elles peuvent mourir. Donc, on peut les mettre en terre pendant tout l'été.
Jusqu'au mois d'octobre, c'est
voilà.
Pas octobre, peut-être.
Et puis mi-octobre, et pas fin octobre, hein, c'est plutôt mi-octobre, il vaut mieux les déterrer et remiser les racines. Alors on peut très bien, vu que c'est des racines qui se gorgent de nutriments, on peut très bien les laisser à l'état de racine et faire comme un dahlia ou comme un glaïeul, c'est-à-dire l'arracher, le laisser sécher et le remiser dans un lieu hors gel, sain et frais. Et dans ces conditions-là, on le relance en culture à partir de du début mars l'année suivante à l'intérieur, et puis on le remet au jardin fin mai, début juin, et ainsi de suite. Mais du coup, ils sont toujours beaucoup plus beaux et beaucoup plus florifères quand ils sont en pleine terre.
Voilà, Maurice, nous allons terminer avec Marcel Le, qui nous appelle de Binic. Bonjour Marcel.
Oui, bonjour Philippe.
La morue était bonne?
Elle était très bonne. Ah oui, il y avait une très grande fête, c'était super. du beau soleil, comme d'habitude, c'était super.
Voilà, c'est terminé aujourd'hui, hein, Marcel.
Ça se termine aujourd'hui.
Ça se termine aujourd'hui. La morue à toutes les sauces, et elle est
ah
bonne.
Oui, oui, oui. Ah oui,
votre question, Marcel.
Oui, alors c'est pour un jeune Olivier. Moi, il est en mauvais état depuis l'année dernière. Il fait des petites pousses grandes comme longues, mais il a plein de rejets aux pieds et il a des branches qui paraissent comme mortes. Et franchement, ça m'inquiète beaucoup. Aïe. Qu'est-ce que je peux lui faire? Le sauver? Comment?
Alors, s'il y a des branches qui, enfin donc des rejets à la base et que la partie haute est très abîmée, c'est que il a dû avoir à un moment donné des racines très abîmées soit une mauvaise plantation, soit une pratique quelconque qu'il a pas aimé. Et s'il a des repousses à la base, ça veut dire qu'il est en train de refaire des racines et qu'il est en train de redémarrer, mais il monte plus la sève jusqu'en haut. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous le laisser repartir sur les jeunes rejets de la base et vous supprimez la partie haute et il va se remplumer et se requinquer. Soit vous voulez à tout craint tout poil essayer de sauver la partie haute. Alors ça va pas être très facile et de deux ça veut dire qu'il faut commencer par supprimer tous les rejets à la base, supprimer toutes les branches qui sont mortes ou en mauvais état et redémarrer que sur du sain, donc des branches qui sont fortes et qui portent des belles feuilles. C'est à vous de choisir. Vous avez les deux solutions. Les deux peuvent marcher, sachant qu'il y aura, je pense, plus de chances avec le fait de repartir à la base. Ça sera un peu plus long, mais au bout du compte, je pense que vous aurez plus de satisfaction parce qu'il se remplumera beaucoup mieux et qu'il redémarrera plus joliment, je pense.
Voilà, Marcel, on lui souhaite un prompt rétablissement à cet Olivier. Philippe, bien, c'est déjà fini, hein, le temps passe très très vite. Un petit ouvrage à lire au fond du jardin, à l'ombre. Là.
Alors, ouais. juste avant le petit ouvrage, je voulais juste vous dire que polygala, ça vient du grec poly, qui veut dire plusieurs, oui, mais ça veut dire aussi abondant. D'accord. Et d'autre part, ça, gala, c'est le lait. Donc, c'est parce que certains polygala étaient, comment dirais-je, utilisé pour augmenter la lactation des mamans. Donc voilà.
Merci pour cette explication.
Et puis je vais vous présenter un petit bouquin qui vient de sortir chez Ulmer, qui est très joli, puis qui pour nous en Bretagne va nous aider fortement. Ça s'appelle Hortensia et Hydrangea d'aujourd'hui. Hein, donc c'est les nouvelles variétés avec toutes les espèces asiatique qu'on connaît plutôt pas trop mal, mais avec aussi d'autres variétés américaines, etc. Donc c'est un ouvrage chez Ulmer de Thierry de Rickel, qui est un spécialiste des hydrangeas. C'est bourré de photos, c'est magnifique. On a envie de tous les mettre dans le jardin. Donc ça nous donne envie de planter des nouvelles variétés d'hydrangeas dans nos jardins. Donc profitons-en. Les terres bretonnes sont acides, ça fait des beaux hortensias bleus. Eh bien, il faut en profiter. Donc c'est un bouquin quand même assez important. Je vais vous donner le nombre de pages parce que comme ça vous saurez que si je le trouve, hein, je sais plus lire là, c'est pas possible. Voilà, il y a 185 pages, oui, c'est quand même assez épais. Plein de photos, je l'ai déjà dit. Ça vaut 24 euros. C'est chez Ulmer, c'est de Thierry de Rickel et ça s'appelle Hortensia et Hydrangea d'aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Munier. On vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Pour l'heure, on vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt Philippe.
Merci Félix.
Au revoir.